Chers frères et sœurs, dans le Messie Yeshua, je vous salue. Bonjour ou bonsoir, selon votre position. Moi, depuis ma position ici, il est déjà nuit, il fait déjà nuit. Et néanmoins, nous sommes toujours au 19 mars 2022. La guerre en Ukraine bat son plein. La crise sanitaire est toujours là, puisqu'il y a une reprise épidémique en Chine qui a dû confiner des millions de personnes de nouveau. Mais nous, nos yeux sont sur l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre, qui l'a façonné, celui qui nous a tirés de notre paganisme, de notre ignorance, et a fait de nous des enfants du royaume, de son royaume. C'est lui qui nous a transformés, c'est lui qui nous a façonnés et c'est lui qui nous a fait afin que nous soyons à l'image de son fils bien-aimé, Yeshua le Messie. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Père, je te loue, je te glorifie, je te remercie infiniment. Père, je te demande qu'une seule chose de donner la force, la puissance à ta parole, donne aussi la compréhension par ton Esprit Saint, afin que, Seigneur Père, par cet enseignement, Père, je n'égare point les frères et les sœurs, mais plutôt que je puisse les édifier et les fortifier pendant qu'il est encore temps, comme Yeshua, ton fils, l'a dit, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, entre tes mains nous nous remettons. Donne-nous la grâce de comprendre ta parole. Donne-nous la grâce qu'à travers cette parole, nous puissions te connaître à travers ton Fils Yeshua. C'est ça la vie éternelle, Seigneur Père. Nous te bénissons, Père. Souviens-toi également des frères et sœurs en Ukraine, Seigneur Père. Souviens-toi des frères et sœurs en Afrique, au Congo, Seigneur Père, ou partout en Centrafrique où il y a des guerres, Seigneur éternel, mon Dieu, mon Père. Au Mali, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les soutiennes. Souviens-toi, ô Père, des frères et sœurs qui sont persécutés. Oh, dans les pays islamiques ou bien dans les pays communistes, Seigneur Père, comme en Corée du Nord. Oh, viens à leur secours, que leur foi ne défaille point. Seigneur, je prie la paix, que ceux qui sont sur le point de renoncer soient fortifiés, ne renoncent point à leur foi, ô Éternel, notre Dieu, la paix. Oh, Éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu tiens les rênes de ce monde. Malgré tout ce qui se passe, Seigneur, tu tiens les rênes de ce monde. Et nous sommes contents, nous sommes dans l'allégresse, parce que notre Seigneur vient établir son royaume. Et nous te bénissons pour toutes choses, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous fais. Merci pour tes provisions. Merci pour la guérison. Merci pour l'Esprit Saint, ô Éternel, mon Dieu, mon Père. Que toute la gloire te revienne. Amen. Donc, nous poursuivons donc notre étude biblique hebdomadaire, l'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons voir 1 Samuel 7, du verset 1 au verset 6. Oui, je voudrais maintenant faire de courts enseignements, parce que, voilà, quand c'est trop long, les gens m'ont dit que, bon, ils ont du mal à l'écouter, ou bien, par politesse, ils me disent qu'ils l'écoutent, hein, mais ben, mes frères, soyez à l'aise, soyez libres. D'accord, donc soyez libre d'écouter ou pas, hein. c'est pas une obligation, mais bon, ceux pour qui ce message est destiné l'écouteront. Voilà, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige et qui vous dirige aussi, mes frères et sœurs. Donc sentez-vous à l'aise, nous sommes unis en Yeshua, même si nous sommes différents. Voilà, je voudrais préciser cela parce que il ne faut pas confondre unité et uniformité. Unité, il faut être deux. Il faut être deux différents pour être unis. Alors que uniformité, c'est un clonage, quoi. C'est-à-dire que tout le monde doit être la copie conforme du chef. C'est ce que le mondialisme fait. Et c'est ce que l'Église apostate qui va régner sur ce monde après notre rassemblement avec le Seigneur Yeshua, c'est ce que l'Église apostate veut faire. Les gens parlent d'une mondialisation, d'un nouvel ordre mondial dans le monde, mais ils oublient qu'il y a aussi un nouvel ordre mondial dans les églises, dans l'église apostate, parce que dans l'église apostate, il n'y aura pas de critique. Tout le monde doit être un clone parfait de l'autre. C'est ce que Nimrod a commencé à faire à la tour de Babel. Alors que la vraie église, c'est l'unité dans la différence. C'est pourquoi même le Seigneur Yeshua nous montre un exemple. On a 5 ministères et plusieurs dons. Il y a même des dons qu'aujourd'hui les gens ne mettent pas en exergue, par exemple le don de la présidence. Il y a aussi, la Bible nous dit qu'il y a aussi des opérations. C'est comme les forces spéciales. Hein. C'est comme les forces spéciales. Dieu te prend pour que tu ailles faire une opération spéciale. Voilà. Il y a ça, mais aujourd'hui, les gens sont plus focalisés sur les dons, sur les ministères, ainsi de suite. Notre Seigneur est riche. Comme disait un pasteur, il n'y a jamais de chômeur dans la maison de Dieu, de l'éternel Dieu. Donc, sachons-le, mes frères et sœurs. Donc, 1 Samuel 7, le verset 1 à 6. La dernière fois, dans 1 Samuel 6, nous avons vu que l'arche de l'alliance donc a été envoyée en Israël et que les bœufs ou les vaches, c'est plutôt les vaches, ont conduit l'arche sur un char jusqu'au village de Beth-Shemesh, un village de prêtres, de lévites, et que là-bas les habitants ont fait quelque chose de qui n'a pas plu à l'Éternel. En tout cas, ont fauté, ont péché contre l'Éternel Dieu et le jugement leur sont tombés dessus. Et il y a eu 50 personnes qui sont décédées sur 70 000. C'est ce que la Bible nous dit. 50 personnes sur 70 000. Par 70 000. Donc, il y a eu donc des décès et des morts. Et les habitants de Beth-Shemesh ont eu peur, ils ont eu peur, vraiment ils ont eu peur. Et ils ont envoyé des messagers à la ville voisine, la ville de Lévite voisine, qui est Kiriat-Yarim, pour leur dire de venir chercher l'arche. Allez, descendez, faites monter l'arche vers vous. Oui, c'est-à-dire que après Beth-Shemesh, il y a Kiriat-Yarim qui est juste à côté. Donc, les gens de Beth-Shemesh donc ont renvoyé la patate chaude, si on peut parler comme ça, donc aux gens de Kiriat-Yarim. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils ont pris peur. Et vous allez voir que les habitants de Kiriat-Yarim sont venus chercher sans se poser des questions. Sûrement que ils ont vu la punition, mais ils n'ont pas eu peur. Ça, c'est une leçon également pour nous. Mais même David a eu peur de l'Éternel lorsque Uzza avait étendu sa main et que Uzza a été puni ou bien quelque chose lui est arrivé. Vous avez vu? David a eu peur de l'Éternel Dieu. C'est ça. Donc, je lis plutôt dans la version hébraïque parce que je préfère, hein, depuis que j'ai découvert cette version. Si vous voulez, hein, c'est sur sepharim.com. Vous pouvez aller voir. En tout cas, vous pouvez comparer les versions. Hein. Sepharim.fr. Voilà, Sepharim. sepharim.fr, Sepharim. Donc vous verrez la Bible juive traduite. Voilà. Les gens de Kiriat-Yarim vinrent prendre l'arche du Seigneur, la transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline et consacrèrent son fils Éléazar pour lui en confier la garde. Or, depuis que l'arche résidait à Kiriat-Yéarim, il s'était écoulé bien des jours, 20 années déjà, lorsque toute la maison d'Israël aspira à revenir vers l'Éternel. Alors Samuel parla ainsi à toute la maison d'Israël. Si c'est de tout votre cœur que vous retournez à l'Éternel, écartez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astaroth. Dirigez votre cœur vers l'Éternel, ne servez que lui seul, et il vous sauvera de la main des Philistins. Les Israélites firent disparaître les Béalim, c'est-à-dire les Baals, et c'est le pluriel hein, en hébreu, les Béalim. Et les Astaroth, voilà, et servit uniquement l'Éternel. Et Samuel dit, « Faites assembler tout Israël à Mispa, et que je prie l'Éternel en votre faveur. » Ils s'assemblèrent à Mispa. Là, on puisa de l'eau qu'on répandit devant le Seigneur, et l'on jeûna en ce jour en disant, « Nous avons péché devant l'Éternel. » Et Samuel exerça le pouvoir sur les enfants d'Israël à Mispa. Donc d'abord, les habitants donc, de Beth-Shemesh, comme je le disais tout à l'heure, donc, ont envoyé des messages aux gens, à leurs frères de Kiriat-Yéarim, de venir chercher l'arche. Ils sont venus et ils ont pris l'arche, tout en sachant ce qui s'était passé à Beth-Shemesh. Et Abinadab savait ce qui s'est passé, le jugement qui était tombé sur les gens de Beth-Shemesh, ou bien les gens qui ont voulu ouvrir l'arche. Mais malgré cela, Abinadab a reçu l'arche dans sa maison et a consacré son fils. Voilà quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas eu peur. Pourquoi n'a-t-il pas eu peur de l'Éternel Dieu, de l'arche? Parce qu'il avait foi en lui. Il avait foi, il marchait dans l'intégrité. Il respectait l'Éternel Dieu. Vous savez, si nous sommes en Yeshua et que nous marchons par obéissance, mais pourquoi avoir peur? Le juste a de l'assurance comme un jeune lion, nous dit la parole de Dieu. Vous voyez, le juste, nous devons avoir la crainte pour l'Éternel, mais pas la peur. Il est notre père, on n'a pas peur de nos parents, mais on leur doit de la crainte, du respect, de l'amour. C'est ce que la Bible nous dit. Honore ton père et ta mère. D'accord? Abinadab n'a pas eu peur, il avait cette crainte respectueuse, il avait le respect, la crainte de l'Éternel Dieu. Il a reçu l'arche dans sa maison parce qu'il sait en qui il a cru. Il a la foi, il est juste devant Dieu, il est intègre, ce monsieur sait, il connaît sa foi. Il a même consacré son fils Éléazar pour s'occuper de l'arche, tout en sachant, et vous? Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu savais le jugement qui était tombé sur les gens qui sont morts. Et toi, même David a eu peur lorsqu'il en devait transporter l'arche de la maison. Je pense que c'est toujours de la maison d'Abinadab à Jérusalem. Il avait eu peur. Il n'a pas voulu. Vous voyez? Mais Abinadab, non, il a consacré son fils. Bon, on n'a pas parlé de Silo ici. Je pense que, en tout cas, les exégètes disent que c'est parce que Silo a été détruit. Même Samuel ne résidait plus là-bas, il résidait plutôt à Rama, dans son village, dans sa maison. Vous comprenez? Donc, c'est que l'arche n'a pas été ramenée à Silo parce que Silo n'existait plus. Les Philistins l'avaient rasé. Donc, la Bible nous rend attentifs. Vous savez, mes frères et sœurs, chaque mot compte, chaque virgule compte, tout. L'Esprit Saint ne fait jamais de faute. Si nous trouvons qu'il y a une faute dans la Bible, c'est qu'il y a un enseignement là-bas. Toujours. En tout cas, je l'ai appris de feu notre frère Jean-Marc Taubois, et puis aussi de quelques personnes que j'ai écoutées, des exégètes juifs. Or, depuis que l'arche résidait à Kiriat-Yéarim, vous voyez, il s'était écoulé du temps. 20 ans! L'arche était venue, mais les gens l'ont négligée. Les Israélites l'ont négligée. Ils faisaient ce qui leur plaisait. Ils se vautraient dans l'idolâtrie, dans l'abomination. Ils continuaient leur vie comme avant. Vous voyez? Le Seigneur est au milieu de toi. Le Seigneur est dans ta vie. Et tu continuais ta vie comme avant. C'est pas possible. Ça, c'est pas la repentance, ça. Hein. Ça, c'est pas la conversion, ça. C'est pas la repentance. Quand on se repent, on laisse la faute. On l'abandonne, on quitte. On quitte, on ne repart plus par ce chemin, on quitte. C'est ça. Mais ici, 20 ans, ils ont laissé. Ben, il y a certaines doctrines dans certaines dénominations qui posent problème, hein, qui disent que, oh, après le baptême, c'est bon, tu peux continuer ta vie. Oh, l'Éternel fera grâce, ne vous inquiétez pas. Il y a un banlieue dans les... dans le royaume, ceux qui se seront faits, qui seront repentis une fois, et c'est fini, parce qu'ils disent qu'on se repentit, on se repent qu'une seule fois, et puis c'est bon. On se convertit quand on devient disciple, quand on devient enfant de Dieu, c'est fini, c'est pour toute la vie. Même si tu retournes dans la boue, c'est fini, le Seigneur viendra te laver, et puis si tu n'arrives pas toujours à obéir à Dieu, toi tu seras en banlieue avec ses problèmes, quoi. Ah, c'est comme si le ciel, il y a un banlieue dans le royaume. Donc 20 ans s'étaient écoulés. Quelle négligence, mais ne les jugeons pas, mes frères et sœurs. Moi en tout cas, je m'assieds de les juger. Si j'étais à leur place, je ne sais pas ce que je ferais. D'accord? Mais 20 ans, c'est beaucoup. Nous voyons aussi la patience de l'Éternel Dieu. Le temps de grâce que l'Éternel accorde. La Bible nous le dit dans Pierre, nous le dit que Dieu ne tarda pas dans son jugement, dans l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience envers le pécheur, pour que le pécheur se repente et abandonne sa voie. Il use de patience aussi envers l'Église, parce que le jugement commence toujours par la maison de l'Éternel Dieu. Ouais, pendant ces 20 ans, l'Éternel Dieu a attendu comme un père, a attendu Israël. Et pendant ce temps, les ennemis d'Israël n'ont pas été jugés. Vous voyez, la perte de temps, les ennemis d'Israël, les Philistins n'ont pas été jugés. Dieu n'a pas permis que les Philistins attaquent Israël, mais Dieu aussi, l'Éternel Dieu n'a pas aussi permis à ce que Israël attaque les Philistins. Parce que les deux sont pareils. Parce que les deux, Les deux étaient pareils. La maison d'Israël vivait dans l'idolâtrie. La maison des Philistins aussi vivait dans l'idolâtrie. C'était comme ça. Or, l'Éternel Dieu est un Dieu d'équité et de justice. Donc, il va d'abord s'occuper de sa maison et nous verrons que après, Israël va remporter la victoire sur les Philistins. Pendant que le jugement de l'Éternel Dieu dans le chapitre s'apesantissait sur les Philistins, l'Éternel Dieu n'a pas permis à ce que Israël les attaque. Israël aurait pu profiter de la faiblesse des Philistins en ce moment parce qu'ils souffraient d'hémorroïdes. Ils souffraient beaucoup d'hémorroïdes, ils ne pouvaient pas combattre. Ils souffraient d'hémorroïdes et de tumeurs sur le corps, ils ne pouvaient pas combattre. Mais puisque Israël aussi vivait dans le péché, l'Éternel Dieu ne pouvait pas donner la victoire à Israël sur les Philistins. Mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu est un Dieu de justice. Comprenons cela. 20 ans. Et après, comment? Le malheur les a atteints. Et comment? Ils n'ont plus l'abondance des récoltes, comme ils avaient des maux au lieu de bien, alors ils ont poussé des gémissements. Des fois, l'Éternel, notre Dieu, laisse certains problèmes perdurer dans notre vie pour nous ramener à lui. Mais oui, pour nous ramener à lui. C'est comme il fait. Il laisse, puisque tu n'as pas voulu. Il dit, comme un père, comme tu ne veux pas écouter, ok, vas-y, continue ta vie. Et quand les problèmes vont s'accumuler, tu reviendras. C'est comme l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Son père l'a laissé aller. Il a vu les difficultés, il est revenu. De la même, vous savez, C'est ça quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit la parole. Dieu ramène, les ténèbres ramènent toujours ce qui a été. La parole de Dieu est une. Moi, je le dis toujours. Tous les frères et sœurs, ces chrétiens, je ne sais pas quel, où est-ce qu'ils sont nés de vous, quel esprit les dirige, mais qui disent que, ok, nous, les écrits précédents, c'est fini, nous n'allons plus lire cela. Nous, c'est le Nouveau Testament. Or, sans l'ancien, il n'y aura pas de nouveau. Le nouveau n'est que le commentaire de l'ancien, sachons-le. Et Yeshua lui-même l'a dit, que les paroles de la Torah, du livre, les Écritures ne passeront pas avant la fin de toute chose. Mes frères, qui es-tu, toi, qui décrète l'abolition de la parole de Dieu? Et, mes frères et sœurs, Israël a poussé des gémissements vers l'Éternel, parce que les problèmes les accablaient, parce qu'ils ne pouvaient plus, ils n'en pouvaient plus. Mais 20 ans quand même, hein, avant de se rendre compte que ils ne progressaient pas, que le pays, non, que rien, le pays ne marchait pas, que l'économie ne marchait pas, que rien ne marchait dans le pays, que leur vie personnelle est terne, ainsi de suite, qu'ils ont des problèmes. 20 ans, ils ont cherché par eux-mêmes des solutions, comme ce monde aujourd'hui cherche des solutions par lui-même devant les grands défis que le monde va affronter de plus en plus. Yeshua nous a parlé des douleurs de l'enfantement, et chaque temps les douleurs augmentent, et nous voyons que nous avons changé de monde et nous allons encore changer de monde de plus en plus. Les douleurs de l'enfantement se rapprochent et deviennent intenses, mes frères et sœurs. Nous devons nous préparer et ne pas attendre encore 20 ans. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si nous aurons encore 20 ans avant notre rassemblement avec Yeshua. Donc, quand Israël a poussé des cris vers l'Éternel, Samuel, le prophète, le juge, l'Éternel lui a dit. Et l'Éternel est passé par lui pour donner la solution à Israël. Et Samuel a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Séparez-vous du péché. Séparez-vous des abominations. Séparez-vous de vos idoles. Et retournez à l'Éternel de tout votre cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul Éternel. C'est la profession de foi. Écoute Éternel, l'Éternel, ton Dieu est le seul Éternel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. C'est ça, mes frères et sœurs. L'Éternel est le seul Dieu, le seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Les idoles, c'est des vacuums, c'est des choses vides, c'est des tonneaux vides, seuls les tonneaux vides qui font du bruit. Donc l'Éternel Dieu, Samuel leur a dit la solution. Faites disparaître du milieu de vous, écartez du milieu de vous les dieux étrangers. À propos de dieux étrangers, depuis toujours, Genèse 35, le verset 2, le verset 4, Jacob, quand il revenait de chez Laban, de la Mésopotamie, il a dit à tout son entourage, à ses femmes, tout ça là, de se séparer des dieux étrangers. Dans Deutéronome 31 également, dans Josué 24, Josué aussi a dit, et séparez-vous des dieux étrangers. Dans Juges 10, le verset 16. Dans Psaume 81, le verset 9 également. Dans Jérémie 2, le verset 25. Dans Jérémie 3, le verset 13. Dans Jérémie 5, le verset 19. Parce que ces dieux étrangers sont associés aux abominations. On faisait même passer les enfants par le feu. Vivant, les enfants brûlaient. Les dieux étrangers, et toi, Et toi qui m'écoutes, tes dieux étrangers, c'est quoi? Tes hobbies, tes idoles, comme toi-même tu dis, tes idoles, tous ceux qui ont pris la place de Dieu, tous ceux qui te prennent, ont pris la première place dans, tout ce qui a pris la première place dans ta vie, ou bien les idoles, il y a encore des idoles dans certaines parties du monde, hein, de vraies idoles, comme avant, des statuettes. Ainsi de suite, les gens aujourd'hui achètent des masques africains sans savoir que ces masques sont au fait des divinités. Les gens l'achètent comme objet de décoration, mais non, ce ne sont pas des objets de décoration. Certains masques ne sont pas des objets de décoration, mais c'est des divinités. Et certains masques en Afrique, on les sort à des moments donnés pour le faire des cérémonies. Mes frères et sœurs, regardons dans nos placards, regardons dans nos tiroirs, regardons, demandons à l'Esprit Saint de faire son expertise de notre vie pour voir ce qui cloche et ce qui ne cloche pas, ce qui ne va pas. Peut-être que tu es aussi dans l'admiration de ce qu'on appelle star, mais c'est des stars qui ne brillent pas, qui émettent une lumière ténébreuse. Ben oui, certains ne peuvent même pas se passer de foot. Certains ne peuvent même pas se passer de certaines séries télé. Oh! Au lieu d'aller prier, on met des heures, des heures, des heures, des heures à regarder la série télé. Ou bien notre portable, les vidéos sur Internet, les choses olé olé encore. Hein, les choses olé olé que les gens regardent, que les comédies qui sont très subjectives, qui sont équivoques, il y en a plein sur TikTok. Et certaines personnes m'en envoient. Moi, je les supprime direct, hein, vous savez, j'ai pas besoin de ça, mes frères et sœurs. Même si c'est pour rigoler, non, moi. On ne rigole pas avec ces choses-là. C'est des pollutions, de vraies pollutions. En tout cas, c'est mon opinion, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je l'accepte. Mais c'est des pollutions de notre esprit, de notre âme. Des pollutions. Hein. Même si c'est la comédie, vous savez, il y a actuellement en Afrique surtout, en tout cas un peu partout dans le monde entier où les gens s'affichent sur TikTok avec dans des positions, surtout les femmes ou bien les gens font aussi des comédies qui sont à caractère sexuel, ainsi de suite, érotique. Oh, vraiment, c'est ça abonde. Et certains chrétiens envoient ces choses, partagent ces choses comme ça pour rigoler. En tout cas, moi, ça me fait rire jaune. Hein. Moi, je ris jaune avec ça. Je ne ris pas. Je les supprime direct. Et je le dis d'ailleurs. Je le dis d'ailleurs. Ce qui me vaut d'être traité d'extrémiste ou autre. Mais oui, je suis un fanatique. FFJ. Fanatique for Jesus, si vous voulez. Fanatique de Yeshua. Sans être un extrémiste, bien sûr. Appliquons la parole. Revenons aux anciennes bornes. Revenons aux anciennes bornes. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les temps seront difficiles et quelques-uns abandonneront la foi. Hein? Quelques-uns abandonneront la foi. On parle à des chrétiens. Et certains vont renier ce qui fait la force de la vie chrétienne. Oui, moi je pense que c'est la sainteté. L'une des forces de la vie chrétienne, de la vie en Yeshua, c'est la sainteté. C'est la sainteté, c'est la sanctification, c'est la mise à part de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas obligés de participer aux choses de ce monde. Nous n'en sommes pas obligés de regarder ces vidéos. Nous ne sommes pas obligés de les partager. Même si toi-même tu les regardes, regarde-les dans ton coin, mais ne les partage pas. Parce que tu ne sais pas dans quelle main ça va tomber. Tu ne sais pas ce que ça va créer chez l'autre. Mes frères, la Bible nous dit de nous réjouir, mais de nous réjouir dans le Seigneur. n'est-ce pas, de nous réjouir dans le Seigneur. Qu'aurait fait Yeshua à notre place s'il existait ici, s'il était encore sur la terre plus tôt? Qu'aurait-il fait? Il va partager ses vidéos? Il va partager ces choses-là sur TikTok pour rigoler? Ah, mes frères, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu nous a créés, il nous a façonnés. Il nous a créés, il nous a façonnés, ça c'est la conversion. Et il nous a fait également. Mais oui, pour que nous soyons quoi? À l'image de son Fils. Donc les dieux étrangers. Vous savez que dans la Bible, j'oublie le verset, quoi. Ça m'a marqué. Je pense que j'en avais parlé dans le livre de Josué. Voilà, c'est ça. Parce que l'Éternel Dieu a dit aux Israélites, vous partez d'un peuple idolâtre et vous allez rencontrer chez un peuple idolâtre. Faites attention à vous. Il a dit dans Deutéronome, faites attention. Détruisez leurs autels, détruisez leur Dieu, l'autel de leur Dieu, que leur nom ne soit même pas nommé dans votre bouche. Ne chantez pas leurs chansons et n'allez pas dire comment ces gens adoraient leur Dieu pour que je puisse appliquer les mêmes méthodes à l'Éternel Dieu. C'est ce qu'il leur a dit. Vous voyez? L'Éternel, nous devons être à part, séparés de ce monde. Ici, le verset nous dit, les dieux étrangers, ils ont ajouté aussi Astaroth, Astarté. Pourquoi? C'est pas Astarté fait partie aussi des dieux étrangers. Pourquoi on l'a mise à part? Je me suis posé la question. Hein. C'est parce que c'était Astarté et Baal. Comme on va le voir plus loin, étaient les deux divinités supérieures, ou bien les plus importantes du panthéon cananéen. Ce sont des divinités associées à la fertilité qui donnaient quoi? Ou bien qui amenaient le peuple à célébrer un culte de la fertilité avec des orgies. Vous voyez, des orgies. C'est ça, culte de la fertilité. Que les Grecs aussi ont pris, les Romains aussi. Ils faisaient des choses comme ça, abominables. C'est ça, le culte de la fertilité. Baal était le masculin et Astarté, le féminin. C'est ça. Donc c'est pour cela que l'Éternel Dieu les a mis à part. Et puis, je me dis aussi que c'est parce que Astarté était très répandue chez les femmes. Parce que c'est la déesse de la fertilité. Chaque femme voulait avoir un bébé. Et comme c'était la polygamie à cette époque également, il y avait une rivalité entre les femmes. Non? Il y avait une rivalité. Et chacun voulait avoir sûrement le plus grand nombre d'enfants pour dépasser la rivale. Je me suis dit ça. Après s'être débarrassé des dieux étrangers et des Astartés, maintenant, ici, l'Esprit de Dieu leur demande et nous demande de diriger notre cœur vers l'Éternel Dieu. De retourner à l'Éternel, de revenir à l'Éternel ou de venir à lui pour ceux qui ne sont pas encore en Yeshua. De revenir, vous savez, ça aborde toutes les étapes de la repentance. On confesse, on se sépare de tout, on fait le ménage dans notre vie, dans notre maison, dans notre environnement, on fait le ménage. Et maintenant, on dirige notre cœur vers l'Éternel. On vient à lui, là, notre cœur, là. Il faut que notre cœur soit libéré de ces dieux étrangers, de tout mauvais esprit, comme disait une chanson, bien l'hymne du d'un parti politique au Togo, ancien, non, d'un parti politique ancien. Et qu'a-t-on tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale? C'est ça, non? Donc, il faut écarter ces dieux, ces esprits-là, qui gênent à ce que le peuple retourne à l'Éternel Dieu, n'est-ce pas? Et diriger maintenant notre cœur vers l'Éternel et de le servir que lui seul, pas d'association. Parce que c'est ce que Israël faisait. Ils ont associé à l'Éternel Dieu d'autres divinités. Je vous ai dit, les femmes avaient aussi leur divinité liée à la fertilité, les Astartés dans leurs jupons, ou bien dans leurs jupes, ou bien sous leurs oreillers, ainsi de suite. Hein? Ou dans leurs robes. L'association, lui seul, c'est important ça, lui seul, mon frère, ma soeur. Est-ce que l'Éternel est seul dans ton cœur? Est-ce qu'il occupe ton cœur? Est-ce que Yeshua est seul et ne le servait que lui seul? Beaucoup de gens veulent, font l'œuvre de Dieu, mais ne veulent pas le Seigneur de l'œuvre. Hein? Ils ne veulent pas le Seigneur de l'œuvre. Ils veulent servir Dieu et se servir eux-mêmes également. Hein? Ils veulent se servir et servir également l'Éternel Dieu. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut servir Dieu et Dieu seul. C'est pourquoi l'Éternel a dit, celui qui s'appelle jaloux, mais je ne pense pas que c'est ce mot-là qu'il faudrait utiliser, mais bon, je ne sais pas. Je vais fouiller, hein. Je vais fouiller voir. Jaloux, parce que beaucoup de gens prennent ça comme si c'est une jalousie, comme on dit que l'être humain est jaloux. L'Éternel Dieu n'est pas un être humain. Quand le mot jaloux est employé, c'est pour nous montrer son amour pour nous et sa sainteté. Également, ce n'est pas comme la jalousie chez l'être humain, puisque l'Éternel Dieu n'est pas un homme, n'est pas un être humain, n'est-ce pas? Voilà. Et toi, est-ce que tu as ôté les dieux étrangers, tous tes hobbies, tout ce qui t'empêche véritablement de rentrer dans ta destinée, puisque c'est le monde dans le ministère ou dans les dons que l'Éternel a prévus pour toi, dans le chemin qu'il a prévu pour toi, dans son plan qu'il a prévu pour toi. La Bible, à travers Paul, l'Esprit Saint, à travers Paul, nous invite de nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes encore dans la foi, mes frères et sœurs, dans la foi en Yeshua. La foi n'est pas vague. La foi est dynamique, mes frères et sœurs. C'est ce que Jacques nous apprend. La foi t'amène à des comportements. La foi est certes. La confiance que nous avons en l'Éternel nous amène à poser des actes, nous amène à dire des choses, nous amène à nous comporter d'une certaine façon. C'est comme ça. La foi ne pas dire ok, la foi est dans le cœur. Ne faites pas ce que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est de l'hypocrisie, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit que de l'eau propre et de l'eau sale ne peuvent pas sortir du même robinet. Et nous devons aussi faire attention. D'accord? Sur les actes, ce que nous disons, sur les réseaux sociaux, ce que nous écrivons nous engage aussi, mes frères et sœurs. Ça nous engage également. Quand nous voulons servir l'Éternel, servons-le lui seul. C'est ce que Élie aussi a dit aux Israélites. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez aussi après lui. Et vous verrez. D'accord? C'est l'Éternel seul que nous devons servir. Tout ce que nous devons faire est dans sa parole. Mes frères et sœurs, revenons aux bornes anciennes. Je me souviens de ce vieux gospel. Donne-moi l'ancienne religion. Donne-moi l'ancienne religion. Donc, voilà ce que l'Éternel a dit au peuple. Et c'est ce que Romains 10 nous dit. La parole est auprès de toi. La parole est dans ton cœur. Si tu crois que le Seigneur Yeshua est le Messie, et si tu confesses de ta bouche son nom, tu seras sauvé. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Il y a toutes les étapes de la repentance et de la marche avec le Seigneur. Mais, comme nous l'avons vu dans le livre de Josué de Juges, c'est un cycle. Israël pêche, punition, repentance, pardon, et il retourne encore. Il retourne encore. C'est vraiment non, Dieu, vraiment, il est miséricordieux. Mais arrivé un moment, tout va s'arrêter. C'est ça. Il a un terme. Même si il est patient, sa patience a un terme. Va arriver à la fin. Va arriver à la fin. Parce que le monde va mettre le comble à son péché. Et je pense que le comble du péché, nous voyons cela dans ce que Yeshua lui-même a dit. Les temps de Noé et de Josué. Les temps de Noé et de Lot. La méchanceté, la violence, la méchanceté, la vraie. Et les abominations sexuelles. Et les abominations. Voilà. Nous y sommes aujourd'hui partout dans le monde entier. Cette idéologie LGBT, comme on l'appelle, s'est diffusée partout dans le monde. Ben oui, c'est diffusé partout dans le monde. Vous voyez, je pourrais être inquiété pour ça également. Vous comprenez, cette idéologie LGBT s'est diffusée partout dans le monde. Dans certaines sociétés primitives où on ne trouvait pas ces choses-là, maintenant, ça y est, c'est fini. C'est répandu dans le monde entier. Et de plus en plus. Je nous dis que le mariage n'est pas de l'ordre de la rédemption, mais c'est de l'ordre créationnel, puisque Adam et Ève s'étaient mariés avant la chute. Ils étaient Ish et Isha avant la chute, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de rédemption pour ça. Donc, si ce fondement est détruit, mais c'est fini. Les bases sur laquelle l'Éternel Dieu a construit son monde, mais ne tiennent plus. Il a construit son monde sur l'altérité, le masculin et le féminin. C'est comme ça. Un émetteur et un récepteur. L'émetteur ne peut pas devenir récepteur. Mais ça va tout brouiller, mes frères et sœurs. Le féminin n'est pas le masculin n'est pas le féminin. Même si chacun d'entre nous, nous avons une part de féminité à nous, puisqu'au début, la Bible nous apprend que Adam était seul. Et après, l'Éternel a fait une opération spéciale. Elle a retiré une partie de la féminité pour en faire une femme. Pour en faire une épouse, Isha à Ish. Comprenons bien la Bible, mes frères, et dégageons des principes. C'est de l'ordre de la création. Et la méchanceté, nous voyons, nous l'avons vu, la méchanceté suffit d'ouvrir la télé ou la radio. Et on le voit encore dans cette guerre, la méchanceté des hommes, des êtres humains. On le voit, là encore, on l'a vu dans le conflit libyen, en Syrie, on l'a vu, en Irak, on a vu, au Congo, on a vu. Où on violait même des petites filles de 6 ans ou de 2 ans. Oh! Où on alignait les gens comme ça dans des guerres, on tue. Sans rien, les gens n'ont rien fait, on les tue, on les massacre, on les enterre, on tue aussi les enfants, on massacre. Parce qu'ils ne sont pas du même bord. En Syrie, c'est ce qu'on a vu. On a vu des atrocités, des gens jouer avec la tête de leurs ennemis au foot. Les gens même ont mangé le cœur de leurs ennemis. On a vu tout ça. La méchanceté est là. Nous sommes dans les temps de Noé et les temps de Lot, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça. Et mes frères, nous l'avons encore vu, nous sommes dans des temps particuliers. Nous devons nous éveiller de notre sommeil. Nous devons être prêts à tout moment, comme un soldat. Quand le clairon va sonner, ah, il faut aller au combat. Ce monde est l'aurore. Ce monde est l'aurore. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons ensemble cueillir les épis, la récolte. Semons maintenant, semons dès l'aurore. Nous irons ensemble cueillir les épis, mes frères et sœurs. C'est l'Éternel seul que nous devons servir. Pas avec notre dirigeant. Beaucoup de dominations vraiment sont dominées même, c'est ça qu'il faut dire, par le Créateur, qui empêche les gens d'aller à Jésus. Jésus est le chef. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La Bible nous dit, si ce que nous avons nous a été donné, pourquoi nous glorifier? Les gens aujourd'hui écrivent des livres, les chrétiens, bon, je ne... Ils vendent ces livres chers, n'est-ce pas? Normalement, ces livres ne devaient pas être chers. On ne devait prendre que l'argent de l'édition, puisque c'est l'Esprit Saint qui t'a inspiré. Et c'est gratuit. Pourquoi tu le vends? Ben oui, bon, tu peux vendre pour récupérer l'argent de ton édition. Et puis c'est bon. Ou bien, si tu as dépensé de la... Bon, l'ouvrier mérite son salaire, hein. Mais vendre ces livres excessivement, pour que mettre un droit d'auteur dessus, je trouve que c'est excessif. En tout cas, c'est mon avis. Bon, je dévie un peu de ce que je dis. Donc, le peuple s'est assemblé donc, à Mispa. Et Samuel a prié l'Éternel, a intercédé, c'est ce que cette parole dit, a intercédé en faveur du peuple. Et ils ont fait des libations. C'est un signe de repentance et de retour à l'Éternel. Dieu nous évoque le baptême, n'est-ce pas? Dieu nous, l'eau plutôt nous évoque le baptême. L'eau en hébreu s'écrit maïm. Vous voyez, ça, l'hébreu se lit de gauche à droite, mais maïm se lit aussi de droite à gauche. Ouais, ça se lit de gauche à droite et de droite à gauche, ça forme toujours le même mot. L'eau, toujours, que ce soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Maïm. Donc, en ce jour-là, ils se sont humiliés devant l'Éternel Dieu. Ils ont jeûné. C'est ce que nous apprend 2 Corinthiens, non? 2 Corinthiens 7, 14. C'est ça, 2 Corinthiens 7, 14, où on nous dit... 2 Corinthiens 7, 14. C'est ce qu'on nous dit. 7, 14. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom. 2 Corinthiens 7, 14. Je lis. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Ils se sont humiliés. Les Israélites, ils ont cherché la face de l'Éternel Dieu. Samuel a prié pour ses enfants. A prié pour les enfants d'Israël. Ils ont jeûné et ils ont reconnu leur péché. Nous avons péché devant l'Éternel. Nous avons péché contre toi, l'Éternel. D'accord? Nous avons péché. Nous avons péché contre l'Éternel. Ou bien, nous avons péché devant l'Éternel. C'est la même chose. Ils ont péché devant parce que l'Éternel les a vus pécher. Mais ils ont péché aussi contre lui parce qu'ils ont violé ses lois. Les deux peuvent se traduire comme ça, ce verset. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple est revenu. Il s'est humilié. Ils ont prié. Samuel a intercédé. Ils ont cherché la face. Ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Ils ont enlevé les idoles. Ils ont purifié leur cœur. Et toi, examine-toi. Examinons-nous nous-mêmes pour voir. Examinons-nous, parce que c'est une parole aussi qui s'adresse à moi. Hein. Également. Hein. D'accord? C'est une parole qui s'adresse à moi. Donc, on nous dit que les Israélites ont fait disparaître les Baals et les Astaroth. Les deux divinités, les deux principales divinités de la fertilité. Ils les ont fait disparaître. Comment? En les brûlant, oui. Et servi uniquement l'Éternel. Donc, durant plusieurs années, ils ont servi uniquement l'Éternel Dieu. Les choses ne se sont pas faites en un seul jour. Hein. Et Samuel les a assemblés. Ce n'est pas un seul jour. Hein. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps. Et Samuel a dû voir des preuves palpables dans ce peuple que c'est pourquoi il est écrit que les Israélites firent disparaître les Baalim et les Astaroth. Sinon, on ne l'aurait pas écrit. Il y a eu un travail de repentance et de retour à l'Éternel. Ils ont changé de voie. Ils se sont détournés des idoles pour servir l'Éternel et l'Éternel seul. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, est le seul Éternel. Et lui seul mérite l'adoration, lui seul mérite le respect, la crainte, c'est ça. Et l'on jeûnant, se sont humiliés. Le jeûne est un signe d'humiliation, se sont humiliés et ils ont confessé leurs péchés. Ils ont cherché la face de l'Éternel. Ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Et l'Éternel les a exaucés, l'Éternel a pardonné leurs péchés. Ils ont repenti de l'eau. Et Samuel a jugé les enfants d'Israël à Mispa. Il les a jugés selon leur comportement. Il les a parlé, rappelé les lois. Juger, c'est diriger. Hein. Diriger, il a exercé le pouvoir. Il est devenu le juge. Pour la première fois, hein, il a été reconnu comme juge. C'est le dernier juge. C'est le maillon entre les juges et la royauté qui va débuter bientôt, entre la période des juges et la période des rois. C'est lui le dernier, le maillon, le trait d'union. Voilà, c'est lui. C'est pour la première fois, Samuel a été reconnu comme juge sur les enfants d'Israël. Son pouvoir, il exerça le pouvoir sur les enfants d'Israël. Maintenant, il est devenu leur référent. Et partout maintenant, les Israélites vont se tourner vers lui pour les sacrifices, pour l'holocauste, pour la prière, ainsi de suite. Parce que son autorité sur Israël a été reconnue le jour-là. Il a intercédé en faveur des Israélites et l'Éternel l'a exaucé comme toujours. Et toi, est-ce que l'Éternel t'exauce? Chacun d'entre nous, nous devons nous poser la question. Hein? Nous devons nous poser la question. Laissons de côté la religion là. Laissons de côté, venons à la vraie parole de la Bible, à la vraie parole, à de vraies relations avec Yeshua. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie de relation avec Yeshua. Comme Samuel faisait l'intermédiaire entre l'Éternel Dieu et le peuple, de la même manière, Yeshua a fait le pont, a fait l'intermédiaire entre son Père, l'Éternel Dieu, et l'humanité, ce qui fait que tous ceux qui passeront par lui seront sauvés. Ils sont sauvés même. Il est le seul intermédiaire entre l'éternel Dieu et l'humanité ou bien et les êtres humains. Nul ne peut aller au Père sans lui. Oh, mes frères et sœurs, voilà ce que nous pouvons dire ici. Hein. Ce que nous pouvons dire, bon, je ne veux pas être trop long, mais voilà ce que nous pouvons dire. Le reste, l'Esprit Saint vous l'inspirera. D'accord? L'Esprit Saint vous l'inspirera. Ce n'est que mon opinion. C'est ce que l'Éternel me donne, m'a donné comme commentaire sur ce, sur cette portion de verset. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et nous donne tous le courage de rester debout lorsque la trompette sonnera. Fortifiez-vous, fortifiez-vous. Que l'Éternel vous fortifie. Amen et Amen.